Bonjour et bienvenue sur la psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Gwenaëlle, tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Tu es notamment spécialiste des blessures d'attachement, sujet pour lequel nous avons déjà fait 4 interviews ensemble. Dans ce nouvel ouvrage, Traverser la perte de sens, tu nous parles de l'angoisse, de la dépression et du sentiment de vide que l'on peut traverser dans sa vie. Tu nous détailles ce que sont ces difficultés existentielles, mais tu nous donnes aussi un éclairage particulièrement intéressant sur la façon dont notre société les produit. En effet, plus une société dysfonctionne, plus elle engendre du mal-être et de la perte de sens. Alors, ma première question pour commencer, tu parles du sentiment de vide que l'on peut avoir et qui vient souvent de loin. Tu dis dans ton livre, je te cite, « Le traumatisme vient parfois de ce qui n'est pas là ». Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Merci, Carole. Effectivement, le sentiment de vide, déjà, c'est peut-être bien de rappeler qu'on va tous le rencontrer à un moment ou un autre de notre existence. Hein, tu l'as dit dans l'introduction, il y a quelque chose d'existentiel à ce sentiment de perte de sens et de vide. Donc, on va tous le vivre à un moment ou un autre suite à une épreuve, qui peut être un accident, une maladie, une rupture. Donc, on va devoir le traverser, hein, et c'est effectivement l'objet de ce livre. Mais le vide, selon moi, qu'on peut ressentir suite à un événement précis dans un passé proche, je crois que souvent il se situe dans ses origines, dans un passé effectivement lointain. Et c'est souvent ce que j'ai entendu, tu vois, quand j'ai eu des patients qui pouvaient me dire bah, « depuis cette rupture » ou « depuis mon accident » ou « depuis ça » ou « si », je me sens vide. Et puis quand on commence à creuser, on se rend compte que le vide, il date d'avant. Qu'il a été déjà ressenti peut-être dans des épreuves précédentes, et puis que surtout, souvent il vient d'une enfance, d'une adolescence, où il y a eu des carences. Et quand je dis que le trauma peut venir aussi de ce qui n'est pas là, c'est ce que j'observe moi souvent. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, je crois que le trauma, ça reste encore quelque chose de manifeste, de visible, de concret. J'ai eu un accident, j'ai perdu mon père... j'ai été hospitalisée X temps quand j'étais petit, etc. Ça, c'est des traumas, on va dire, concrets, où il s'est passé quelque chose. On dit aussi que souvent, c'est des traumas de commission, dans le sens qu'il y a eu quelque chose de commis. Parfois, c'est commis pas forcément par quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être une épreuve qui touche une famille, par exemple. Tu vois. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les traumas d'omission. Et omission, c'est quand il y a quelque chose qui a été omis. Et ce qui est malheureusement assez souvent le cas, hein, c'est ce qui a manqué, c'est de l'amour, de la présence, un regard, des compliments, des gestes affectueux. Et c'est là où, en tant que thérapeute, nous, assez rapidement, on va aller creuser ça aussi. Pas tant ce qui s'est passé, pas tant racontez-moi votre vie, mais tu vois, de lire entre les lignes et de dire, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire que en fait, vous aviez à peine 5 ans déjà et tous les soirs vous rentriez, il n'y avait personne avant 20h et vous faisiez à manger pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Parfois, les gens sont même surpris. Ils disent, c'était comme ça, quoi. Sauf que, typiquement, tu vois une solitude de ce type-là, eh bien ça peut créer un trauma. Et donc, ça peut créer, déjà très petit, un sentiment de vide, hein, qu'on va souvent refouler parce qu'il faut bien continuer à fonctionner. Et puis, souvent, ça va se répéter dans la vie. Tu vois plus tard avoir un cercle d'amis où tu te sens avec eux, mais en même temps pas avec eux. Donc, tu te sens un peu seul. Puis plus tard, ton premier petit copain, il te fait vivre quand même plein de moments où tu ne te sens pas vraiment en couple, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ces colliers de perles. Moi, j'appelle ça des colliers de perles, tu vois, avec vraiment une succession de choses. Parfois, des choses très visibles, et puis parfois, des choses invisibles. Et parfois, c'est les plus importantes, les choses invisibles.
C'est très important de le rappeler, effectivement, parce que souvent, quand on parle traumatisme, les gens disent non, non, mais moi, je n'ai pas eu de traumatisme, je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas eu ceci, cela, alors qu'en fait, ça peut être vraiment un manque et ça a le même impact.
Absolument. Parfois même plus. Ah, si toute l'enfance, tu t'es sentie seule, même si tu avais une famille nombreuse, des parents plutôt là, mais que c'était quand même un peu froid émotionnellement, que personne ne se parlait, ça parfois, ça a beaucoup plus d'impact que des choses qui, en apparence, sont plus traumatiques.
Et donc, c'est ce sentiment finalement qu'on va revivre adulte, sauf qu'on a un peu oublié, enfin, on comprend pas d'où ça vient.
Eh oui, eh oui. Typiquement, tu vois, la crise de milieu de vie, hein, c'est assez courant quand même. Ça peut arriver avec un déclencheur, typiquement c'est des problèmes de boulot ou des ruptures amoureuses. Hein. C'est un peu, moi j'observe les deux grands aspects. Parfois, tu as aussi des maladies, hein, le corps qui parle. Et les gens arrivent, soit chez un thérapeute, soit auprès de leur ami, hein, un confident, et ils vont dire, je comprends pas, j'ai tout pour être heureux. Bon, ok, il y a ce truc-là, c'est un peu dur en ce moment, mais ça va. Et pourquoi je me sens si vide? Pourquoi je n'arrive pas à me remettre de cette rupture, pourquoi j'arrive pas à me remettre de ce problème de boulot, que j'y pense tout le temps, que je dors plus, qu'est-ce qui se passe en moi? Et c'est là où ça va être important d'aller creuser. Et souvent, tu vas descendre, hein, je dis descendre parce qu'on descend dans la psyché, en fait, dans l'inconscient, hein, et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a eu des étages précédents, et parfois, on va dire le sous-sol, on va l'appeler comme ça, hein, le fond parfois de l'inconscient, de ce qui a été refoulé, qui peut être un grand vide qui dure depuis toujours.
Alors ma question suivante, c'est au sujet des masques sociaux. Donc les masques sociaux que nous portons, qu'on appelle le faux self, ils alimentent aussi ce sentiment de vide intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce faux self et pourquoi en fait c'est pas tenable à long terme de rester comme ça?
Alors, on en a tous, hein, des masques. On pourrait pas fonctionner dans la société, tu vois, si on n'avait pas ce que Jung appelait une persona, hein, qui est un masque entre soi, hein, le vrai soi, et les autres. Particulièrement au boulot, c'est assez évident, hein, sauf si tu arrives à trouver un boulot où vraiment tu te sens complètement toi-même, qui te correspond, hein, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais malheureusement, c'est quand même pas si souvent le cas. La plupart du temps, au boulot et puis à plein d'autres endroits, hein, ça peut être dans le voisinage, ça peut être même au niveau familial, on va porter un masque qu'on appelle effectivement un faux self. Et il y a différentes formes de faux self. Alors, ça dépend beaucoup de ta personnalité, ton éducation, parfois aussi du boulot, du statut social, de l'environnement du présent. Et ça peut être, par exemple, un faux self assez courant, moi je trouve, dans notre société encore, c'est le faux self du conformiste, tu vois, de suivre la norme. Hein, de pas trop sortir des clous. Et on l'a beaucoup vu, je trouve, avec la crise récente, là. Tu as aussi le faux self beaucoup aujourd'hui du narcissique, hein, de la réussite, l'apparence, le bling-bling. Alors, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, hein, mais ça existait avant, bien sûr, mais c'est encore plus fort, tu vois. Tu as aussi le faux self de l'évitant, hein, sur lequel, en apparence, tout glisse, qui te dit toujours que ça va alors que intérieur, ça va pas, mais peut-être que lui-même, il ne le sent pas. Tu as aussi le faux self du travaillomane, celui qui bosse beaucoup parce que, hein, c'est important, on n'a rien sans rien, faut trimer. Tu vois, souvent, c'est des croyances familiales aussi, hein, qui créent un certain faux self. Tu as aussi un faux self que moi, je vois beaucoup dans mon milieu de thérapeute et de soignant, alors à l'hôpital encore plus qu'ailleurs, c'est le faux self du sacrifice, du sauveur. Je donne tout à l'autre, je m'oublie. Ça c'est la route directe au burn-out en général, et ainsi de suite. Donc, on en a tous et on en a besoin pour fonctionner. Le problème, c'est quand ça devient pas seulement un masque qu'on met et qu'on enlève, mais que ça nous colle, tu vois, hein, si on garde la métaphore du masque, ça nous colle à la peau et on a l'impression que, par exemple, si on bosse pas tout le temps, on n'est rien, que si on sacrifie pas, on n'est rien. Et là, ça commence à devenir en fait toxique parce que le faux self est aussi donc une protection avec le monde extérieur, à nouveau importante à plein de moments dans notre vie. Mais du coup, ça nous protège des émotions difficiles, certes, mais aussi des émotions positives. Parce que quand on refoule, hein, puisqu'il s'agit bien là de refoulement, tu vois, de minimisation, de banalisation par une apparence de différents types, on ne peut pas faire de tri sélectif, entre guillemets. Hein, tu peux pas dire, ah non, moi je garde la joie, mais par contre la colère, non, j'en veux pas. Non, ça marche pas. Hein. Tu refoules un peu tout, et en fait tu refoules aussi ta pulsion de vie. Hein, ce que, à nouveau, Jung, qui est un psychiatre que j'aime beaucoup, appelait la libido, hein, mais vraiment au sens jungien, ça veut dire la pulsion de vie. Hein, pas, pas, enfin, ça a à voir avec la sexualité, mais pas tant. C'est vraiment tu vois, la sève de vie, la pulsion de vie, et qui est aussi l'endroit où bah, y a plein d'émotions positives et négatives. Et quand tu mets un faux self trop longtemps, quand il te colle à la peau, eh bien, tu te protèges des émotions douloureuses, certes, sauf qu'elles ont besoin d'être vécues aussi pour avancer, et puis tu te protèges aussi bah, des émotions positives, et puis tu te protèges aussi de qui tu es vraiment. Parce que nos émotions, finalement, à quoi elles servent? Elles servent à avancer. Elles servent à... La colère, hein, ça sert à grandir en assertivité. Il y a des moments, c'est important d'être en colère, tu vois. La tristesse, ça sert à tourner les pages du livre de notre vie. Hein, la peur, elle est importante parce que des fois, il faut aussi être, tu vois, dans une prudence, etc. Donc, si tu te coupes de tes émotions par un faux self trop longtemps, trop fort, tu te coupes aussi de ton vrai self. Enfin, il y a le faux self et le vrai self. Il y a pas mal de gens qui sont gelés dans leur faux self. Et il y a quelque chose à l'intérieur, tu vois, qui reste là, hein, mais qui ne peut pas se montrer. Et ça crée typiquement un vide. Parce que quand tu fonctionnes comme ça depuis 30 ans, 40, 50 ans parfois, hein, même jusqu'à la fin de la vie, hein, il y en a qui fonctionnent en faux self, eh bien tu ne montres pas qui tu es vraiment. Et donc tu passes quelque part à côté de ta vraie vie, hein, de ce qu'on appelle le processus d'individuation, à nouveau de Jung, c'est devenir soi-même, devenir qui on est depuis toujours, c'est comme ça qu'il le disait. Et ça parle de nos talents, nos singularités, le fait qu'on est chacun unique et qu'on a quelque chose à amener au monde. Donc le faux self en excès, ça te coupe en fait de ce que tu as à apporter aux autres et au monde de manière plus large. Donc oui, c'est un vrai problème quand ça dure.
Et en
et puis
quoi
on le sent en face.
Ouais.
On sent que la personne n'est pas authentique. On sent qu'on n'a pas accès à elle. C'est frustrant aussi dans les relations.
En quoi ça peut, à long terme, justement, plonger la personne dans de la dépression, de la déprime, de la perte de sens? Parce qu'elle est coupée de son essence, hein, c'est ça?
C'est ça. Elle est coupée d'elle-même et nous, les êtres vivants, hein, donc je nous associe aussi aux animaux, on est là pour être dans la vie, le mouvement de la vie. Tu vois, émotion, d'ailleurs, c'est mouvement vers l'extérieur. On n'est pas là pour se cacher derrière un masque, même si à certains moments, on a besoin. On est là pour étendre au-delà de nous ce qui est en nous. Tu vois, aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et d'ailleurs, les personnes avec qui on se sent tout de suite bien, avec qui tout de suite il y a un fit où tu sens de l'énergie qui rayonne, bien, si tu observes bien, c'est des gens qui sont en fait authentiques, surtout avec elles-mêmes, qui peuvent dire aussi quand elles vont pas bien, qui peuvent nommer leurs défauts, qui peuvent avoir de l'autodérision, tu vois, qui sont dans quelque chose du plus ouvert possible, hein, même si c'est un long chemin, hein, tout ça. Et on se sent bien avec ces gens-là.
C'est vrai.
C'est tout l'inverse du cadenassé derrière son petit masque.
Alors, il y a un autre point que tu nommes, c'est l'impuissance acquise, qui est également un facteur de dépression, pardon. Qu'est-ce que c'est l'impuissance acquise et justement comment on l'acquiert, malheureusement?
Oui, à l'inverse. Hein, comment on retourne ça?
Oui.
Donc, l'impuissance acquise, c'est un chercheur qui s'appelle Martin Seligman, qui a étudié ça aux États-Unis dans les années 60, hein, donc ça date un peu, et qui voulait comprendre les origines de la dépression et notamment des comportements suicidaires. Hein, donc là, on est au cœur du sujet. Et il a mené des expériences en fait avec des chiens, donc c'est dommage parce que pour ces animaux de l'époque, hein, on ne ferait plus ça aujourd'hui, mais l'expérience c'était la suivante, c'est que on faisait subir à ces chiens des chocs électriques avec différentes conditions et on voyait comment ils réagissaient. Et la conclusion de ces expériences, à nouveau, hein, qu'on ne ferait plus aujourd'hui, c'est que les chiens dont on empêchait l'action, notamment qui ne pouvaient pas, tu vois, s'enfuir ou combattre, eh bien, au bout d'un moment, ils finissaient par subir les chocs et à ne même plus bouger, tu vois, ne plus faire de tentative ni de combat ni de fuite. Et c'est ça que Seligman a appelé l'impuissance acquise, c'est que quand tu fais des efforts mais que tu n'atteins pas de résultat, eh bien, à la longue, il y a quelque chose dans ton système qui va s'éteindre. Et on appelle ça l'impuissance acquise, parce qu'en fait, elle n'est pas innée. C'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'expériences d'échecs et de douleurs aussi. Hein. Là, c'est physique, mais ça pourrait être psychique aussi, qui fait que tu as le « à quoi bon » qui arrive. Hein. Et quand on a vécu une dépression ou quand on travaille avec des gens dépressifs, cette phrase du « à quoi bon », hein, ou des équivalents, genre des phrases qui commencent par « ça sera toujours comme ça » ou « j'aurai jamais si » ou « tous les gens sont ainsi » ou « personne ». Tu vois, tous ces mots qui sont très radicaux, ça parle d'un endroit de soi qui a lâché l'affaire, on va dire ça comme ça, tu vois, et qui se résigne. Et on voit ça, effectivement, typiquement dans la dépression, qui dure, hein, parce qu'après, tu as des dépressions parfois quand même plus modérées et plus courtes, hein, où la personne, justement, abdicte sa pulsion de vie, et elle peut aller même, effectivement, jusqu'au suicide, hein, mais aussi parfois jusqu'à des somatisations graves. Hein. Et c'est à relier aussi avec tous les phénomènes qu'on connaît bien en psychotrauma, hein, de sidération, de figement, de dissociation, où la personne n'est plus là. Elle a débranché la prise. Tu... Et donc, le remède, eh bien, c'est de renverser ça. Alors, évidemment, il n'y a pas de magie, mais les grandes lignes qui vont aider, c'est, pour moi, c'est deux choses, c'est le lien et l'action. Le lien, d'ailleurs, Seligman, il l'avait montré dans ses expériences, parce qu'il avait aussi des conditions dans son protocole où l'expérimentateur à un moment finissait par aider les chiens à sortir ou à combattre, à faire quelque chose, tu vois. Donc l'expérimentateur soutenait une initiative, et en fait ce qui se passait, c'est que la plupart des chiens qu'on aidait, bah, reprenaient justement l'initiative et sortaient de cette impuissance acquise. Et nous les humains, c'est pareil, c'est ce qu'on fait avec les patients dépressifs, hein. On vient les aider avec différents moyens, et c'est par le lien qu'ils, j'ai envie de dire, ils ressortent de leurs ténèbres, en fait, hein, et retrouvent les autres humains, les autres. Hein. Et on sait qu'un des grands symptômes de la dépression, c'est de s'isoler socialement. Donc, nous, à côté, comment on aide? Eh ben, en tendant une main, et puis ensuite, le deuxième grand levier, pour moi, c'est l'action. Que je nomme aussi souvent la stratégie des petits pas, c'est-à-dire que pour sortir d'un état dépressif, c'est pas magique, hein, c'est un petit pas. Et au début, c'est tout petit, c'est décrocher son téléphone et prendre un rendez-vous avec le médecin, par exemple. Ou de se dire, tiens, il fait beau, allez, je sors. Hein. Bah, parfois, c'est juste pour sortir la poubelle, hein, ou le chien, tu vois, c'est peut-être tout petit au début. Mais après, il y en aura un deuxième de pas, puis un troisième, et ainsi de suite. Donc, la puissance retrouvée, on va l'appeler ça comme ça, eh bien, c'est grâce à quelqu'un et grâce à la mise en mouvement du corps. Ça c'est archi prouvé, hein, en psychiatrie, que les patients dépressifs, tu leur fais pas parler de leur enfance et de leur machin dans tous les sens au début, hein, ça sert à rien. Tu es auprès d'eux et tu les aides à faire des petites choses, refaire à manger, sortir, etc. Et après, il sera temps de comprendre qu'est-ce qui les a amenés là, d'où vient cette perte de sens, etc. Mais après,
j'imagine que cette impuissance acquise, elle a été programmé entre guillemets dans notre cerveau, parce qu'on a été habitué à ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait ou avoir ce qu'on voulait.
Alors ça c'est très vrai, alors pas chez tout le monde, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditions de comment d'éducation et d'environnement familial, mais c'est sûr que si tu as grandi dans une famille, par exemple, où de toute manière tu n'avais pas trop le droit à l'initiative et que tu devais te soumettre, hein, et le modèle éducatif est quand même vachement comme ça aussi, hein. L'école aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça, l'entreprise c'est comme ça, les institutions publiques c'est comme ça, enfin on est dans un modèle sociétal comme ça. Eh bien oui, ça va un peu s'engrammer en nous. C'est pas pour rien quand même qu'on vit à un moment où moi je trouve qu'il y a une forme d'impuissance acquise chez plein de gens, en fait, hein, qui subissent beaucoup de choses. Le à quoi bon, on l'entend tout le temps en disant ah bah oui, bah le réchauffement climatique, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah bah oui, bah, hein, la crise du Covid et tout le tralala, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ainsi de suite. Et on sent que ça vient de loin. Et chez certaines personnes, ça vient de très très loin, parce que si en plus ça a été un modèle éducatif familial, là c'est fort. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Selon moi, il y a des personnes qui ont vécu déjà dans un environnement plus stimulant, tu vois, avec des parents qui ont plus soutenu l'initiative, encouragé, qui ont donc quand même créé, tu vois, par un mouvement de vie. Ça, c'est certaines personnes déjà, c'est beaucoup. Et puis, tu as aussi les résilients, ceux qui ont peut-être beaucoup morflé, hein, qui ont peut-être vécu dans une famille où ils subissaient, mais à un moment, ils se sont redressés, ils se sont mis debout, hein, hommes et femmes debout. Et ces personnes-là sont même, selon moi, encore plus puissantes que la le premier groupe, parce qu'ils sont allés dans l'obscur, ils sont allés dans le noir. Donc souvent, ils ont des capacités de discernement, tu vois, tu peux pas leur raconter la lune, quoi. Il y a des capacités de mentalisation, ils ont acquis des capacités de régulation, etc. Et eux, en général, c'est eux qui vont un peu aider les autres, tu vois, les sortir de leur torpeur.
Parce qu'ils y sont passés, ils savent de quoi ils parlent.
Eh ouais, exactement.
Souvent comme ça. Tu évoques aussi la dissociation traumatique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment elle se manifeste?
Ben, c'est en lien aussi avec ce que je viens de dire. Et puis, ta première question, hein. Donc, dissociation traumatique, il y a déjà le mot traumatique. Donc, il s'est passé quelque chose ou il ne s'est pas passé quelque chose, hein. Je rappelle les deux grands types d'origine d'une dissociation traumatique. Et ça crée en moi un endroit de fragilité, ou moi, je préfère dire vulnérabilité. Et parfois, cette vulnérabilité, elle était telle que j'étais obligée de me dissocier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se dissocier? C'est l'image la plus simple, c'est tu as un appareil électroménager, et tout d'un coup, tu enlèves la prise, ben, il ne marche plus. Ben, nous, c'est pareil. La dissociation chez un humain, c'est que tu vis un truc qui est trop difficile. Par exemple, tu es un enfant, tu es victime de la violence de tes parents, c'est trop difficile, tu peux rien faire. Hein. Là, l'impuissance est énorme. Eh bien, à un moment, tu débranches la prise, hein, ou tu as un accident. Et tu peux rien faire, t'es figé, pareil, la prise est débranchée. Donc c'est très très connu aujourd'hui, enfin, depuis pas si longtemps, comme ça fait 20-30 ans, donc c'est quand même assez récent, mais maintenant, avec la neuroimagerie et toutes nos techniques qu'on a aujourd'hui en psychologie, on le connaît très bien. On connaît bien ce qui se passe dans le cerveau, hein, donc je vais épargner les détails, mais il y a plein de phénomènes vraiment physiologiques, avec des neurotransmetteurs, tout un flux qu'on identifie très bien, et qui donne comme résultat que sur le moment, et puis le problème c'est que ça peut durer, eh bien tu n'es plus à l'intérieur de toi. Tu es dissocié. Tu ne sens plus ton corps. Tu as l'impression même parfois de flotter. Tu n'as plus de pensée. Tu bugs. Et aussi, bien sûr, tu ne peux plus réagir. Donc c'est ça qui explique aussi que dans les agressions physiques ou sexuelles, les victimes souvent, parfois ne comprennent pas, disent, mais pourquoi j'ai pas hurlé? Hein, on m'aurait peut-être sauvé. Pourquoi j'ai pas pris mes jambes à mon cou? Ben en fait, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas, parce que c'était débranché pour survivre, parce que la dissociation a cette fonction que si tu es débranché, hein, au niveau vraiment émotionnel, sensoriel, physique, eh bien, tu vas traverser ce moment qui est peut-être à risque vital, physique ou psychique, et tu vas survivre à ça. Et le plus important dans ce moment-là, c'est la survie. Parce que parfois, il vaut mieux être sidéré que commencer à se battre. Parce que si tu commences à te battre, hein, peut-être que tu vas peut-être être agressé, mais peut-être tu vas même être tué. Hein, ça va peut-être aller encore plus loin. Donc, il vaut mieux faire le mort, entre guillemets. C'est ça la dissociation. Donc,
Sur
c'est en lien
ce,
aussi avec l'impuissance acquise, parce que plus tu as vécu des traumas, plus tu as été dissocié, plus tu tombes malheureusement dans cette impuissance. Du coup, dans la perte du mouvement de vie, du coup dans la perte de sens, et donc tu es plus sujet, à nouveau c'est pas causal, hein, mais c'est un facteur de risque, on va dire, à des dépressions, de l'anxiété forte, tu vois, des passages à l'acte, des crises, etc.
parce que le problème, c'est ça, c'est cette dissociation, tout l'aspect émotionnel qui a été coupé, et ben après le trauma, enfin, si c'est un trauma ponctuel, ça ne se rebranche pas.
Et oui, et en fait, l'objectif en thérapie, bah, ça va être de rebrancher, mais doucement. Hein? Tu vois, bah, tu ne vas pas rebrancher direct, la personne, elle pourrait refaire un courjus quelque part. Donc, tu vas y aller tout doucement. Et c'est ça une thérapie qui est vraiment sécure par rapport à toutes ces questions du trauma, on y va doucement. On va d'abord redonner de la force à la personne, lui redonner confiance, donner de l'espoir, la narcissiser. Mais après, il va falloir quand même retourner dans ce qu'on appelle le noyau traumatique ou la capsule traumatique, tu vois, vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est encapsulé à l'intérieur de nous. Et peu à peu, on va essayer de l'ouvrir, hein, pour que les émotions qui n'ont pas pu sortir à l'époque, qui étaient vraiment enfermées, puissent peu à peu ressortir. Et donc, c'est des moments difficiles, hein. En thérapie, c'est des moments où tu as des flashs qui reviennent, où tu es très en colère, où tu peux avoir des idées suicidaires qui montent. Enfin, c'est des périodes très fragiles et c'est là où il faut ben, un bon accompagnement. Un vrai soutien, on fait ça dans des bonnes conditions. Mais il va falloir, comme tu dis, retrouver les émotions pour les libérer.
Et pourquoi il
Et
faut les
après, ça va
libérer
mieux.
justement?
Comment?
Pourquoi il faut les libérer, justement?
Il faut les libérer parce que sinon, elles restent en l'état. Si tu veux, c'est comme une cocotte minute où tu as bien tout fermé. Tu te dis, oh, bah, c'est bon, hein, tout va bien, c'est fermé. Bon, sauf que le truc, c'est une bombe. Et il suffit de pas grand-chose, par exemple, si on parle d'une agression physique. Et puis que peut-être tu as mis ça sous la cocotte, tu dis, ah, c'est bon, je ne suis pas mort, c'est pas rien, c'est rien. Et puis même, parfois, c'est de l'amnésie. Hein. Et puis que 20 ans plus tard, la vie te fait rencontrer quelqu'un qui ressemble incroyablement à ton agresseur. Eh bien, le corps, il va se souvenir. Peut-être ton cerveau, pas tout de suite, mais le corps, il va, par exemple, tu vois, tressaillir, sauter, ou peut-être pas sur le moment, mais dans les jours après, tu comprends pas, tout d'un coup, tu dors plus, tu peux plus aller au boulot. Et en fait, donc là, c'est que ça a ravivé les émotions qui étaient coincées, mais de manière beaucoup trop violente. Et là, ça peut faire vraiment des passages difficiles. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On va éviter les explosions de cocotte minute, si tu veux. Et pour reprendre la métaphore de la cocotte, c'est qu'en thérapie, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on va lever la soupape petit à petit. Puis à un moment, on a commencé à desserrer. Hein. Enfin, moi, j'ai l'image de la vieille cocotte minute sève de ma grand-mère. Hein. Tu vois? Mais tu vas faire ça progressivement.
Ouais.
Mais il va falloir le faire quand même.
Alors là, on va passer à un niveau plus sociétal, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ton livre, parce que finalement, on culpabilise. Quelque part, oui, on va dire, bon, bah, cette personne-là, elle a un problème, etc. Sauf que là, on est à un autre niveau, et tu expliques que dans le contexte dans lequel nous vivons, il y a une source d'angoisse permanente, et tu l'illustres avec l'expérience des chats de Boller. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience?
Oui, alors c'est effectivement Sébastien Boller qui parle de ça, c'est un journaliste scientifique qui a écrit un bouquin qui s'appelle Où est le sens, hein, que je vous invite à lire, il est passionnant. En effet, au niveau société, on est quand même dans une période, hein, bon, je pense que toutes les périodes de l'histoire ont été difficiles, mais là, il y a quand même une certaine accumulation depuis plusieurs décennies, et puis là, à court terme aussi, de 3-4 ans, où l'angoisse, c'est quand même... Moi, je trouve très présente. À quoi c'est dû? Ben, si on prend des changements sur les dernières décennies, le rapport au travail, par exemple, a beaucoup changé. Hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mes grands-parents, par exemple, encore un peu même mes parents, on faisait le même boulot toute sa vie. Hein, il y avait quand même quelque chose qui était assez repéré, tu vois. On restait souvent avec la même personne aussi toute sa vie, on ne bougeait pas forcément trop, et puis on n'avait pas tous les moyens modernes aujourd'hui qui nous permettent de gagner certes beaucoup de temps, mais qui nous perdent en fait. Hein, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'agitation, du tout tout de suite, de l'immédiateté, etc. Et tout ça crée en fait un milieu général, alors pas pour tout le monde, hein. Par exemple, je pense que c'est plus difficile en ville qu'à la campagne. Et puis évidemment, les facteurs individuels vont jouer, mais au niveau sociétal, quand même, c'est quand même très présent. Et ça crée un milieu où, globalement, les choses sont beaucoup plus incertaines qu'avant, qu'il y a quelques décennies. Sur tous ces plans-là, amoureux, familiaux, en société, tout, hein, l'impact des divorces sur les enfants, etc., le boulot, etc. Et l'expérience que cite Sébastien Boller, c'est une expérience, cette fois-ci avec des chats, qui vont devenir fous parce qu'on les a mis dans des situations expérimentales où tout change tout le temps. Où, par exemple, le rythme jour-nuit change tout le temps, ou ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'on leur donne comme stimulation, etc., il n'y a aucun repère. Et on observe qu'en fait, à un moment, les sujets de l'expérience, donc ces animaux, disjonctent en fait, avec vraiment des aspects qu'on retrouve chez un humain qui disjoncte. Alors, il y a plein de disjonctions différentes. Hein. Tu peux, par exemple... disjoncter sur un mode dépressif ou addictif, voire même psychotique, parfois qui ne dure pas, etc. Mais il y a quelque chose qui a été montré par cette expérience et par tant d'autres, hein, c'est quelque chose quand même qu'on connaît bien, qui montre que vivre dans une incertitude qui dure trop longtemps, pour un humain, c'est extrêmement difficile. Aussi parce qu'on a une structure dans notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, voilà, j'en ai d'autres, singulaire antérieur, pardon, qui est le centre de la prévisibilité et de la mise en sens. Et cet endroit de notre cerveau, quand il y a trop d'incertitudes autour de nous, il s'allume, il s'active. Donc, il s'active à plein de moments dans notre quotidien. Par exemple, je ne sais pas, t'attendais un coup de fil pour telle heure, un truc quand même important, et puis ça fait déjà 2-3 heures, t'as toujours pas. Donc là, tu es dans l'incertitude. là, pouf, cet organe, il s'allume dans notre cerveau, mais si tu as finalement le coup de fil, il s'éteint et puis tu retrouves le calme. Mais si tu vis dans quelque chose qui est incertain tout le temps, eh bien là, en fait, ce cortex cingulaire antérieur, il va s'activer trop longtemps. Et ça, pour l'humain, c'est trop difficile. Ça fait beaucoup de stress. Et donc souvent, en fait, on va disjoncter par nous-mêmes ça, par la dissociation, par exemple. La dissociation qui peut être volontaire, par exemple, d'aller passer son après-midi devant la télé. Hein, ou de prendre des drogues, ou de l'alcool, ou de travailler, ou faire du sport en excès. Le sexe aussi est un bon coupeur, tu vois, d'incertitude. C'est ce qu'on appelle des micro-certitudes. Ou manger. Tu vois, je mange, ah ben ça va mieux. Hein, parce que je mange, ça me calme. Ça, au moins, c'est certain. Et on vit dans un monde, là, qui est particulièrement, tu vois, incertain. Alors, le top, c'était quand même 2020, quoi. 2020, hein, les confinements, les annonces, on reste chez nous, on sort, on fait quoi, mon boulot, enfin, c'était un truc de dingue, en fait. Et beaucoup de gens ont disjoncté, hein, les troubles psy, ils ont explosé. Là, on a des chiffres quand même bien consolidés, maintenant. Avant le Covid, le chiffre que moi j'ai toujours entendu, hein, c'est un Français sur cinq va vivre un trouble psy dans sa vie. Soit un épisode dépressif, soit une anxiété. Un sur cinq. 2020, 2021, 2022, chiffre de santé publique, c'est à doubler. Deux sur cinq. Et toutes les strates de la population, tous les âges. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Maintenant, c'est l'économie, le climat. Donc, on vit une période effectivement difficile où il va falloir aller, tu vois, trouver au milieu de ce chaos quand même des endroits plus calmes, plus tranquilles. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui désertent la ville, hein, qui changent de boulot, qui ont des vies plus simples. C'est bien, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on a les droits dans le mur, de toute manière.
Et puis, de toute
c'est
façon,
les vertus de la crise.
Ouais. Et d'une manière générale, les médias fonctionnent aussi sur la peur pour attirer l'attention. Donc,
Mais tellement, hein, là, on en a bien soupé. Hein. Et puis, les réseaux sociaux, tu vois, s'il y a un truc tout le temps, vite, vite, on sait bien le phénomène des cyberharcèlements, chez les jeunes, c'est une catastrophe. Tout ça, c'est tous les matins, se réveiller, regarder son portable. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais recevoir des trucs terribles sur ça? Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Ou est-ce que je vais avoir assez de likes? Ou, tu vois, on n'avait pas ça quand même quand on avait 20 ans. Donc, bon, il va falloir un peu reprendre certaines choses, je crois. Ça ne va pas se faire en 2 jours, mais c'est quand même ce qu'on a à faire, je crois.
Alors, tu expliques aussi que notre société est dominée par notre cerveau gauche qui analyse et calcule, aux dépens de notre cerveau droit qui, lui, est plus créatif, beaucoup plus créatif. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment fonctionnent ces deux hémisphères de notre cerveau? Et puis d'ailleurs, oui, j'avais noté, c'est une expérience qui a été très bien décrite par une scientifique américaine, Jill Bolt, qui
Ah
a
oui.
écrit « Voyage au-delà, mon cerveau », parce qu'en fait, son cerveau, je ne sais plus lequel, gauche, s'est éteint.
Oui.
Et c'était incroyable, cette expérience.
Oui, alors, il y a un TED Talk, hein, qui a des millions de vues où elle rapporte ça, c'est fantastique. Et puis, elle est tellement émouvante, cette femme, j'aime beaucoup. C'est une neuroscientifique. Donc, en fait, c'est assez incroyable parce que c'est une femme qui vit comment on appelle ça, une attaque cérébrale, un stroke en anglais. Et effectivement, elle a en fait, je ne sais plus les détails, mais dans son hémisphère gauche, il y a une hémorragie, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, tout d'un coup, tout d'un coup, ça arrive quand même assez soudainement, et puis ça va durer plusieurs heures, où elle perd en fait les fonctions de l'hémisphère gauche. Et alors, en tant que neuroscientifique, c'est génial, parce qu'elle connaissait un petit peu quand même tout ça. Et donc, elle l'a observé, et elle le décrit bien. Et ça permet effectivement... ce qu'elle décrit, et puis tant d'autres travaux, de montrer qu'on a deux hémisphères qui sont effectivement dédiés séparément à des fonctions différentes. Même si ce n'est pas aussi vrai que ça, parce qu'on sait quand même qu'il y a un peu parfois des complémentarités, tout ça. Mais quand même, c'est classiquement, l'hémisphère gauche est le centre du langage, de tout ce qui est de l'analyse, de la pensée linéaire, de la pensée méthodique. C'est aussi l'endroit du cerveau qui nous permet de sentir notre identité séparée des autres. Je suis, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle en parle, Jill Bolt. Je suis dans le sens, je suis Gwenaëlle Percio, je suis psychologue. Ça, c'est mon identité. Ça vient notamment du cerveau, de l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, il est en lien avec un autre monde, quelque part, qui est celui de l'imagination. Donc ça passe par les images, c'est aussi les émotions, la sensorialité, l'instant présent. C'est relié aussi à la conscience d'être relié aux autres, tu vois, et même à la grande conscience. Et d'ailleurs, donc Gilles Bolch, quand elle fait son attaque, donc l'hémisphère gauche est très diminué, et du coup, en fait, elle vit dans ce qu'elle appelle le la-la land, c'est-à-dire l'hémisphère droit qui domine, où elle n'est plus que instant présent, reliée à la grande conscience. Et elle dit d'ailleurs, c'est extatique en fait. Mais par contre, elle ne voit plus, par exemple, les frontières de son corps. À un moment, elle décrit exactement la scène, mais elle ne voit plus les frontières de sa main, je crois, quelque chose comme ça, qui se confond avec le décor, tu vois. Et elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus non plus parler, elle ne sait plus, tu vois, utiliser tous les signes qui nous permettent d'interagir avec l'extérieur, parce qu'elle est dans un grand tout. Et c'est extrêmement flippant. C'est extrêmement flippant parce que là, en plus, elle le vit dans un mode où elle a aussi très mal, donc tu vois, mais ne plus sentir les frontières du moi si t'es pas préparé, parce que là, c'était quand même pas préparé, c'est aussi très flippant, parce qu'on a besoin, on est élevé quand même... comme ça, enfin, l'être humain est incarné pour sentir les frontières de notre corps, en fait. Bref, tout ça pour dire que ces deux hémisphères, ils ont des fonctions différentes, et nous, les humains, on a besoin des deux. Bien fonctionner, on a besoin à la fois du langage, de la planification, etc., et on a aussi besoin de l'imaginaire, hein, d'être lié à plus vaste que nous, hein, parce qu'on est bien plus que la matière, et c'est ça qui fait que on chemine toute notre vie avec, tu vois, cette belle danse entre nos deux hémisphères. Grâce au corps calleux, d'ailleurs. Et pour info, le corps calleux, quand il y a eu des gros traumas, on sait maintenant qu'il est diminué, il est un peu moins fonctionnant. Donc, ça explique aussi que les gens très traumatisés ont plus de mal, tu vois, à avoir une vie plus fluide, plus harmonieuse, ils sont plus extrêmes, plus radicaux. Bon, bref. Et effectivement, notre société, elle est très hémisphère gauche, c'est évident. Alors, on est beaucoup, on dit dans notre tête. Sauf que notre tête, c'est pas que l'hémisphère gauche. Mais bon, l'image qu'on donne souvent, c'est être dans le mental, être dans sa tête. Et c'est vrai, on est dans une société cartésienne, hein, Descartes est passé par là. Alors ça fait aussi beaucoup de progrès, hein, on a pu sortir quelque part de l'obscurantisme, d'une certaine époque et tout ça. Hein, la science, évidemment, a apporté beaucoup de choses. Mais on s'est un peu perdu en chemin. On a perdu aussi non seulement l'accès à l'imaginaire, hein, et c'est quand même l'imaginaire qui permet aussi... de développer beaucoup de nos talents, hein, la créativité, hein, et le siège de l'hémisphère droit, et puis aussi la conscience qu'on est bien plus que la matière. Et c'est en ça que je trouve que notre société est malade, qu'elle est hypertrophiée à gauche et qu'il est temps qu'on se reconnecte à droite, dans le sens aussi de la reliance aux autres, hein, que tu sens d'ailleurs dans les états élargis de conscience, où là tu connectes à plus grand, et là, en fait, c'est avant tout l'hémisphère droit qui est dominant.
Alors, tu expliques aussi quelque chose de très important qui est dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin de spiritualité, de connexion, de sens dans sa vie, qui semble effectivement être devenu totalement accessoire, voire gadget dans notre société aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses et en quoi ça peut expliquer aussi justement tout un tas de dépressions et de gens qui ont perdu le sens de leur vie, on va dire.
Mais c'est complètement en lien avec ta question précédente. Hein. Maslow, effectivement, Abraham Maslow, un grand psychologue humaniste, a décrit ce que beaucoup de gens connaissent quand même, qu'on appelle la pyramide des besoins. Hein, il y a cinq niveaux. Le premier niveau, c'est les besoins physiologiques. Hein, c'est sûr que tu ne vas pas aller plus loin tant que, par exemple, tu n'as pas à manger, à boire, un toit sur ta tête et que tu te sens en sécurité. Ça, c'est évidemment la base, parce que c'est la base aussi animale. Puis après, tu as les besoins, alors je ne les connais jamais dans l'ordre, mais il y a l'appartenance, la reconnaissance, l'estime, et puis tout en haut, tu as la transcendance, où on parlait aussi de l'actualisation du self, donc en gros, c'est d'être plus que ce que nous sommes, nous, et la transcendance, c'est aussi la reliance vraiment à plus vaste, en fait. Hein. Et ça rejoint le besoin urgent, hein, comme disait Jung, hein, Jung, il disait, l'humain a un besoin urgent de spiritualité. Pourquoi urgent ? Parce que, alors que Jung a vécu quand même il y a un siècle maintenant, mais déjà à l'époque c'était vrai, et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui, nous sommes des êtres spirituels, hein, incarnés certes dans un corps, mais des êtres connectés à plus grand. Et dans cette société matérialiste, cartésienne, on a perdu de vue ça. Il n'y a pas si longtemps quand même, hein, parce que jusqu'à peut-être un siècle, quelque chose comme ça, je pense que le début de la dégringolade, c'est le fameux siècle des Lumières, entre guillemets, hein, on a voulu tout comprendre. Bon, on a compris plein de trucs, mais on a aussi perdu des choses. Et on a perdu bah, ce besoin de reliance qu'avaient, je pense, les humains naturellement en vivant plus dans la nature, en honorant aussi la nature et en comprenant qu'on est issu de la terre hein, et on retourne à la terre, et on est aussi issu du ciel et on retourne au ciel. Tu vois, c'est, pour moi, c'est les deux pôles du sacré, la terre et le ciel. Et il y a des auteurs comme le psychiatre Assagioli, qui n'est pas très connu, c'est un psychiatre italien, Roberto Assagioli, qui parlait même du refoulement du divin, pour parler de nos congénères. C'est-à-dire qu'il allait plus loin que Freud, qui parlait du refoulement des pulsions primaires, archaïques, souvent sexuelles chez Freud. Et il disait, oui, certes, on refoule ça, c'est vrai. Hein, c'est d'ailleurs une des bases de la névrose. Mais on refoule aussi la plus belle partie de nous. Et la plus belle partie de nous, eh bien, c'est la partie qui est connectée naturellement au sacré. Tu prends des enfants, tu les fais vivre dans un environnement en fait qui devrait être normal, c'est-à-dire plus en lien avec la nature, les animaux, les autres, les interactions. En fait, naturellement, eux, tu vois, ils parlent aux arbres, ils n'ont pas peur des défunts. Il y a quelque chose qui est fluide en fait. Et on a perdu ça parce qu'on est dans une société hors sol et on a refoulé, comme dit Assagioli. Parce qu'il fallait bien s'y mettre, tu vois, à l'école il faut s'y mettre, en entreprise il faut s'y mettre, mes parents ils disent ça, il faut s'y mettre, tu vois, tu refoules l'ami imaginaire par exemple quand t'es gamin. Hein, l'ami imaginaire, bon, c'est pour moi une connexion à plus grand aussi, tu vois. Bon, donc tu refoules et tu refoules cette part du divin, et qui selon moi est une des causes effectivement des grandes dépressions d'aujourd'hui. Hein, du mal-être général, du à quoi bon, tu vois, la crise du milieu de vie. Tout ça pour ça, j'ai une baraque, un bon boulot, une femme, des enfants, je vais en vacances l'hiver, peut-être l'été, nanana, tout va bien. Et je me sens vide. Pourquoi? Eh oui, bah parce que dedans, il manque le pourquoi, mais le pourquoi en deux mots. Pourquoi je suis là, tu vois? Et il y a des choses très belles, très concrètes hein, dans notre existence, hein, je trouve à trouver et à accomplir. Et il y a aussi sûrement plus vaste à aller trouver. Mais on voit bien que les gens spirituels, ils habitent quand même beaucoup mieux leur corps, quoi. Hein, les vrais spirituels, pour moi, c'est pas les gens qui méditent sur leurs affous toute la journée, tu vois, dans un truc qui est hors sol aussi. C'est une forme d'évitement, hein, des fois. Mais pour moi, les vrais gens spirituels, c'est des personnes comme... je sais pas, moi, par exemple, j'adore Fabrice Midal, hein, qui pratique avec la méditation de pleine conscience. Et on voit qu'il est aussi bien dans la vie, cet homme. Tu vois, il est dans la matière. Et en même temps, il est tellement connecté à plus grand. Et il est dans quelque chose de fluide. Hein, bon, il a sûrement des défauts et des zones d'ombre, je suis sûre. Mais quand même, tu sens une spiritualité incarnée, habitée. Ça, c'est réjouissant. C'est des modèles pour moi.
Et enfin, bah justement, tu nous donnes des pistes. Tu parles des états modifiés de conscience qui peuvent nous faire accéder justement à cette part en nous qui est reliée à plus grand. Est-ce que tu peux nous donner quelques pratiques qui nous sont accessibles?
Bah, Maslow, justement. Hein, avec sa pyramide et le besoin de transcendance qu'il mettait tout en haut, Maslow parlait, il y a déjà bien longtemps quand même, hein, c'est les années 50-60, il disait que pour nourrir cette expérience et ce besoin de transcendance, eh bien, il est important de faire des expériences paroxytiques. Il appelait des expériences paroxytiques. Elles sont de différents ordres. C'est, alors, tout de suite, on pense aux expériences mystiques spontanées, mais qui sont quand même très rares, mais ça arrive. Hein, y a des gens qui, en pleine nature, ou lors d'une prière, ou parfois même de manière très soudaine, ont tout d'un coup une ouverture de conscience, un état élargi de conscience spontané, et qui peut les bouleverser. Tu as aussi parfois des expériences paroxytiques, comme le décrit Maslow, dans les expériences de mort imminente. Qu'on connaît de mieux en mieux quand même, hein, qui nous permet aussi beaucoup de comprendre de ce qu'est vraiment la conscience, hein, qu'elle n'est manifestement pas logée dans le cerveau, contrairement à ce qu'on croit encore beaucoup, qu'elle est sûrement ailleurs. Et les expériences de mort imminente, la plupart des gens reviennent bouleversés et changent leur vie, et dans un sens vraiment, comme je l'ai décrit, avec un besoin de transcendance. Hein. Tu peux avoir plein d'expériences comme ça, plus ou moins étonnantes, et puis tu as aussi effectivement... des états élargis de conscience, on va dire plus accessibles, que tu peux vivre en travail sur soi. Par exemple, si tu travailles avec des outils comme l'hypnose, hein, des séances d'hypnose bien amenées, bien profondes, peuvent t'amener, enfin moi j'ai déjà vécu, à des moments où tu reconnectes en fait à ton moi profond, à ton self, hein, et sentir qu'on est bien plus que ce corps et cette matière. Donc l'hypnose c'est quand même utilisé depuis bien longtemps. Tu as aussi, moi j'aime beaucoup le mouvement, donc tout ce qui est transdance. Hein. Moi la transdance m'a beaucoup aidée, déjà à revenir dans mon corps, parce que j'étais bien dissociée, hein, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, d'être bien connue. Et puis, à plus que ça, pas seulement revenir dans mon corps, d'un moment d'avoir aussi des expériences d'ouverture de conscience, tu vois, de sentir l'énergie du monde, voir aussi des personnes disparues qui comptaient pour moi, et de sentir qu'on est bien plus vaste. Enfin, je me souviens d'une expérience en particulier qui a été transcendante, au coup, de transdance, où il y a eu un avant et un après. Vraiment. Donc, la transdance peut être, tout ce qui est au niveau, avec le mouvement, c'est très fort. Il y a toutes les techniques du souffle, le rebirth, la respiration holotropique, qui sont utilisées depuis très longtemps. Hein. On utilise le souffle pour partir en transe depuis la nuit des temps. Hein. L'hyperventilation, par exemple, tu vois, de suroxygéner son cerveau, permet à un moment de baisser le mental, de baisser le filtre du cerveau et d'être dans une ouverture. Hein. Après, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as tout ce qui est les rituels avec la terre, la nature, hein, donc typiquement avec le chamanisme. Les voyages au tambour, avec les vibrations sonores, tu vois, c'est très fort le son. Tous les rites qui te permettent de bouleverser ton système en baissant ton mental, en te mettant dans des conditions extrêmes, comme les huttes de sudation par exemple, hein, où il fait très chaud, on est beaucoup dans un endroit serré, et là en fait ça invite à la régression, les quêtes de vision, etc. Bon. Et puis, tu as tout le travail, mais aujourd'hui, pour le coup, ce n'est pas encore accessible légalement, c'est avec les psychédéliques. Hein. Là aussi, on sait que y a tout un champ incroyable d'ouverture de conscience grâce à ces substances qui ne sont pas des drogues, qui sont en fait des médicaments psychotropes pour aider. On sait que c'est. On a beaucoup d'études hein, maintenant sur tout ce qui est toxicomanie, dépression-résistance, grande anxiété, etc. Voilà, donc. Bon, les psychédéliques, pour l'instant, légalement, on ne peut pas, mais tout le reste, tout ça existe et se déploie beaucoup. Moi, je trouve ça là aussi réjouissant parce que ça montre que on est dans une société, certes, qui va mal, mais tu sais, c'est un peu l'ombre et la lumière, c'est un peu les extrêmes. Il y a plein d'endroits où le monde est fou, complètement fou, malade, pathologique, c'est sûr. Et en même temps, moi, je vois aussi tellement de lumière. Je vois des initiatives individuelles, collectives, magnifiques, grâce entre autres à la dernière crise, quand même. Et des gens qui se tournent vers la thérapie, le travail sur soi, qui veulent autre chose, pour eux, pour leurs enfants, pour le monde. Et en ça, c'est une époque formidable.
Ben c'est super, ça donne beaucoup d'espoir. Donc, la théorie des petits pas, se reconnecter à soi progressivement.
C'est ça, absolument. Et peu à peu, bah, ça amène, selon mon expérience et de ce que j'observe, à quelque chose de connecter encore à plus grand. Parce que je crois qu'on est là pour ça, hein. On est vraiment. Là, pour un moment, ouvrir, 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 ouvrir. C'est infini, d'ailleurs, c'est magnifique.
C'est super. Merci beaucoup, Gwenaëlle.
Merci beaucoup, Carole.